Vous le savez, aujourd'hui plus que jamais, la sécurité de nos informations est cruciale dans les petites ou moyennes entreprises, les start-up tech ou les boutiques en ligne. Alors imaginez un expert cyber disponible à la demande, capable d'adapter ses solutions à la taille et aux besoins de votre entreprise. C'est ce que propose Orange Cyberdéfense, leader en cybersécurité reconnu à l'échelle mondiale. Que ce soit pour un diagnostic afin d'évaluer vos vulnérabilités, une formation personnalisée pour vos équipes ou pour tester vos défenses de manière proactive en simulant une attaque, Orange Cyberdéfense est présent pour les petites entreprises. Pour vous permettre d'en savoir plus, un webinar aura lieu le 28 mai prochain, une occasion idéale de poser vos questions directement aux experts. Il y a très peu de place, mais Monde Numérique vous offre l'opportunité de suivre cet événement exclusif. Il suffit de vous inscrire dès à présent sur le site orangecyberdéfense.com, rubrique événements avec le code Monde Numérique. Notez la date sur vos tablettes, 28 mai 2024, et inscrivez-vous dès à présent. C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour prendre les devants contre les cybermenaces.
Je pense que c'est un peu trop tôt de parler des problèmes, des risques un peu existentiels, comme par exemple... Est-ce que ces agents nous échappent totalement?
Oui.
Et ça, je pense que c'est un peu tôt pour dire qu'on a ce type de risque.
Neila Murray est directrice du laboratoire FAIR de recherche en intelligence artificielle du groupe Meta pour l'Europe, le Proche-Orient et l'Afrique. Elle nous a accordé une interview exclusive dans laquelle elle détaille les recherches menées actuellement sur les modèles d'IA du futur et leurs différents enjeux.
Ici, à FAIR, on travaille sur les problèmes comme le raisonnement, comment on peut avoir vraiment un agent intelligent qui peut avoir du raisonnement, qui peut planifier, par exemple, et qui peut avoir un modèle du monde aussi, pour pouvoir aborder des questions comme si je fais cette action, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'agis de cette manière, comment ça va changer le monde, je peux dire, comme conséquence?
D'accord. Ouais. Donc, c'est une approche beaucoup plus globale que ce qu'on voit aujourd'hui avec les chatbots basés sur des modèles, des grands modèles de langage, etc., qui sont basés essentiellement sur l'écrit, en fait.
Exactement, oui. Il y a plusieurs types de l'IA, de DIA, non? Il y a, c'est vrai qu'on a, on travaille, on en parle beaucoup maintenant des langages des modèles de langage maintenant. Et c'est très intéressant comme technologie. Mais c'est vrai qu'on a aussi les modèles qui peuvent générer des images aussi, des vidéos avec, you know, par exemple, Sora était très intéressant aussi de voir. Mais en plus, il y a pas mal de DIA qui est pas du tout génératif, non? Il y a les systèmes de l'intelligence artificielle qui nous aident à prendre des décisions, par exemple. Et ça, c'est tout à fait autre chose.
Quels sont les obstacles que vous avez à surmonter? Quel est le chemin que qui vous reste à faire pour arriver à ce but que vous fixez?
Oui, c'est une bonne question. On voit, je pense qu'on a, il y a plusieurs obstacles. Par exemple, maintenant, les modèles sont pas, ils ont pas une vraie connaissance de comment fonctionne le monde. Non. Donc, par exemple, juste parle d'une intelligence sociale. Par exemple, si un modèle émite un texte, ce modèle aura pas du tout une notion de quelle sera l'émotion que ça peut évoquer dans quelqu'un. Donc ça, c'est une notion d'une connaissance du cerveau de quelqu'un d'autre. C'est pas du tout possible maintenant pour ce genre de modèle qu'on a construit jusqu'au maintenant.
D'accord.
Et si on parle aussi sur le monde physique, la notion de si je jette quelque chose, quelles seront les conséquences de ça? C'est pas nécessairement possible pour un modèle de pouvoir comprendre tout ça, vraiment.
C'est ce qu'on appelle une approche multimodale. C'est ça?
Oui, ça fait une partie du problème. Mais si on peut le voir qu'avec une seule modalité, par exemple avec le texte, même avec le texte, c'est pas nécessairement clair qu'un modèle peut vraiment comprendre ce qu'ils disent, si on peut dire ça. Mais c'est vrai qu'avec les modèles multimodales, et ça veut dire pas ça veut dire les modèles qui peuvent gérer les images, mais aussi le texte, par exemple, les vidéos aussi, qui peuvent processer ce type de contenu, mais aussi générer ce type de contenu. Ça rend les choses encore plus difficiles. Parce qu'avec une seule modalité, c'est difficile, mais avec plusieurs modalités à la fois, de comprendre tous ces différents types de contenu, ça rend les problèmes bien plus difficiles. Donc ça, c'est un problème, une vraie connaissance du monde et comment ça fonctionne. Et aussi, à part ça, même si on peut arriver à avoir ce type de capacité, d'aller jusqu'au raisonnement sur le futur. Donc par exemple, si je donne un objectif à un agent, par exemple, si je demande à un agent, moi, je voudrais aller à Paris dans 2 semaines. J'aimerais acheter des billets et avoir une réservation pour un hôtel, les choses comme ça. Les modèles, c'est très difficile maintenant d'avoir un modèle de faire quelque chose comme ça d'une manière fiable. Oui.
Un jour, vous trouverez la réponse à ce problème-là?
Oui. Ouais. Honnêtement, je pense qu'avec de la bonne ingénierie, on peut faire ce type de choses peut-être dans les mois qui suivent, en fait.
Ah oui?
Oui, je pense que oui. Mais ça va être un peu compliqué, je dirais. Ça serait un peu complexe comme modèle. Je pense que pour ça, il faut faire pas mal d'ingénierie. Ça serait assez brittle. Je sais pas comment dire ça, mais je pense que ça serait pas très robuste. Mais je pense que pour aller au-delà de ça, ça va prendre bien plus de temps.
Ouais. Est-ce que au stade où vous en êtes, donc c'est dans la recherche chez FAIR, vous vous souciez déjà des risques éventuels qui pourront découler de ces innovations?
Je peux imaginer quelques risques, donc par exemple
des dérives, etc.
Oui, je peux imaginer ça. Je pense qu'avec toute la technologie, il faut avoir des mesures de sécurité. Et je pense que ça, c'est toujours quand on arrive à un moment où les modèles travaillent d'une manière appropriée, il faut avoir aussi les systèmes, les mesures de sécurité. Et je pense que ça sera le cas aussi avec, dans ce cas-là. Et donc, par exemple, on peut imaginer que si on demande à un modèle d'acheter les choses pour nous, il faut peut-être avoir des systèmes pour vérifier, OK, si on va acheter, utilise 100 000 euros pour quelque chose, peut-être il faut avoir
des... Vous lui demandez une paire de chaussures, qu'il n'aille pas vous acheter un yacht, quoi.
Exactement. Donc, il va falloir des mesures comme ça. Mais c'est le type de choses sur laquelle moi, je pense que c'est nécessaire d'avoir. Je pense que c'est un peu trop tôt de parler des problèmes, des risques un peu existentiels, comme par exemple, est-ce que ces agents vont nous échapper totalement?
Ouais.
Et ça, je pense que c'est un peu tôt pour dire qu'on a ce type de risque. Parce que c'est vraiment difficile d'avoir des modèles.
Est-ce que le problème, c'est pas quand on s'en aperçoit trop tard aussi?
Oui, mais c'est un peu difficile de voir comment ça va se passer avec les modèles qu'on a maintenant.
Ouais.
Pour penser à ce type de risque, il faut penser vraiment à un type de modèle qui n'existe pas au moment. Parce que, par exemple, si on pense à construire des modèles plus et plus grands, pour ça, il faut avoir, par exemple, des cartes graphiques, plus de cartes graphiques, plus d'énergie pour les faire tourner. Et c'est pas évident. Ces modèles peuvent agir sans nous, sans un nourrissement d'énergie, des cartes graphiques, les choses comme ça. Si on pense pratiquement comment ça peut se passer, c'est difficile pour moi de voir.
Ces agents dont vous parlez, est-ce que ça ressemblerait à quoi? Parce que un modèle qui fonctionne uniquement avec du texte, il suffit de lui rentrer du texte. Un modèle qui fonctionne aussi avec, si on comprend bien, avec l'ouïe, la vue, les sensations, etc. C'est quoi? Ça passe par des capteurs externes?
Je pense que c'est une très intéressante piste de recherche. Pour ça, il va falloir simuler le monde d'une manière assez fiable. Et c'est difficile de faire ça maintenant. Je pense qu'on peut faire pas mal de choses pour la modalité un peu visuelle. Donc, par exemple, si on pense aux jeux vidéo, par exemple, ou les engins de jeux vidéo, là, je pense qu'on peut faire pas mal de choses au niveau de la perception visuelle. Mais si pour la patte un peu auditoire ou avec la sensation de touche, si on peut dire ça, on est encore un peu loin. Mais on fait un peu de progrès là-dessus. Donc, par exemple, à faire, on travaille sur des mécanismes pour avoir une notion de touche. Est-ce qu'on dit ça?
De tactile.
D'avoir des systèmes tactiles.
D'accord.
Par exemple, on travaille là-dessus maintenant dans notre labo et aussi d'avoir des modèles auditoires aussi. Donc, je pense que ça va arriver. Je sais pas exactement dans quel le temps que ça va prendre, mais je pense qu'on va commencer à ajouter les choses et mettre des systèmes un peu mettre un peu ensemble toutes ces choses.
Donc, c'est ça, l'IA du futur, elle pourra nous entendre, nous voir, nous toucher, nous sentir.
Oui.
On va vers la robotique, en fait.
Oui, on pense maintenant à faire que c'est assez important d'avoir cette partie physique, surtout parce que, au moins pour nous, pour les êtres humains, c'est important pour nous, pour nous d'avoir tous les différents types d'expériences.
Merci Neila Murray, directrice du laboratoire FAIR de recherche en IA de Meta pour l'Europe, le Proche-Orient et l'Afrique.